est 8h sur Radio Campus. Et un peu comme nous, vous êtes tombés ici par hasard sur le 106,6 sur la bande FM. Et vous êtes sans doute encore avec votre brosse à dents dans la bouche, ce peignoir un peu usé sur vos épaules larges et encore huilées par cette douche que vous venez de prendre. Et comme nous, vous avez un travail, comme nous, ça commence à vous gaver. Mais vous allez voir, ici une chouette bande de dégringos, rougeoyante et pleine de vie, saura vous amener. Oui, je sais, je ne sais plus où je vais. Très bien. Donc, nous avons plusieurs sujets qui vont s'enchaîner comme dans n'importe quelle station de radio. Et parce qu'on fait ça vraiment dans les conditions du direct, et je suis en train de aidez-moi tous un par un, car on aura Benjamin, Loïc, Seb qui sont partis sur les marchés pour aller recueillir la parole des vrais gens, ces vrais gens qui ont des vraies idées, qui ont des vraies pensées. Jean-Jacques qui est parti sur YouTube dans l'enfer d'Internet, mais l'enfer d'Internet, bien sûr tu ris, mais je vois bien que tu ris. Et Joseph sur une chronique entièrement bilingue, Working Class Hero. Joseph qui est également le former Prime Secretary of the Section of Lille of the French Communist Party. Et qui, oui bien sûr, oui je sais, c'est très long. Il est également vice-champion du monde de dialectique. Sabrina, Marie-Laurent qui sont partis au contact des jeunes de Saint-Saul, côté musée, FIAC, etc. Plus côté, bon voilà, des installations un peu sauvages, tout aussi artistiques. Laurent Lydie, dans le rouge, chronique sur EDF, GDF, sa beauté, son romantisme. Mais pour l'heure, on enchaîne tout de suite. Habib, pour une plongée dans la réalité du monde du travail. Habib, c'est à toi.
Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Donc, je me présente, je m'appelle Habib Hamdoud, je suis délégué syndical à Auchan City. J'ai poussé la porte de l'UL de 031, 43 rue de Lille, suite à des différends, tout ça. Donc, j'ai décidé de monter une section. Donc, ensuite, je me suis fait élire, j'ai gagné des mandats. Et au fur et à mesure des batailles, je me suis découvert un plaisir de la lutte syndicale. Et donc, j'ai découvert quelques pépites au fur et à mesure de ces années d'expérience. Ça fait 6 ans. Que je suis un militant actif à l'UL de Tourcoing. Et donc, en fait, on a pu rencontrer des moments tristes, des moments plus ou moins bien. Il y a eu des moments où il y a eu des victoires. Bon, les instants euphoriques sont très peu dans la lutte, mais quand il y en a, c'est bon. Et ce qui nous amène là, c'est des situations sur lesquelles on va zoomer. C'est des situations précises où on peut voir des fois l'arrogance et le manque de respect du travailleur de la part de certains patrons et certains DRH. Et donc là, j'ai un petit exemple qu'on va vous faire écouter.
Oui, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui a été fait jusqu'à présent à sa connaissance. Et donc par rapport à cette agression de ce chef d'équipe, parce que nous, ce qu'on attend de vous, ce qu'il attend de vous, Madame, c'est que ouais. Vous garantissez sa sécurité et son droit syndical. Après, est-ce que le fait que cette agression survient comme ça soudainement, c'est lié à son mandat? Il y a des causes à effet troublantes dans cette affaire qui...
Non, mais c'est pas lié à son mandat. Enfin, je sais pas, dites-moi pourquoi pour vous ce serait lié à son mandat.
Ben, je sais pas. Visiblement, il était bon pendant des années. Aujourd'hui, il est plus bon.
Il était plus bon avant d'avoir un mandat. Hein. Il était plus bon, il a été reçu pour l'accompagner dans son métier avant qu'il ait un mandat.
Mais est-ce que ça justifie le fait qu'il se fasse agresser devant ses collègues?
Ça, on est d'accord, ça justifie pas du tout. Non. Voilà. Ce dossier-là est en cours, ne pensez pas qu'on fait rien.
Bien sûr, mais nous, madame, ce qu'on attend comme de notre organisation syndicale, c'est que nos militants soient respectés comme vos collaborateurs. À titre égalitaire. Là, l'objet de mon appel, c'est un appel en toute courtoisie, d'accord? Donc là, pour l'instant, il se passe rien, on fait pas de procédure, on fait rien. Par contre, moi, je vous le cache pas, que si ça devait se reproduire, on serait amené à envisager des procédures et des actions sur votre site.
Mais il n'y a pas lieu que ça se reproduise. Enfin, pour moi, c'est pas normal.
Donc, c'est un échange avec une DRH d'un grand groupe, d'une grande multinationale, la première fortune, le premier employeur de la région. Donc, la première fortune familiale de France, pour ne pas la citer, c'est la famille Mullier. Donc, en fait, donc là, cette DRH reconnaît sans scrupule, voilà, sans vergogne, que bon, ben, le mec s'est fait agresser par son chef d'équipe. Bien sûr, après qu'on l'ait mandaté. Et donc voilà, donc on lui a donné un mandat syndical. Et directement, là, tout de suite, c'est des agressions, des insultes, des menaces. Et donc le camarade s'est retrouvé en arrêt maladie. Ensuite, on a rectifié, on l'a fait passer en accident de travail. Et ce qui était important pour nous, c'était de faire découvrir l'envers du décor de la lutte syndicale, parce que souvent on dit que les syndicalistes exagèrent tout ça. Et donc là, on a un exemple vivant de faits concrets sur le comportement que les patrons peuvent avoir des gens, des salariés, des petites personnes qui décident de s'organiser collectivement pour défendre leurs intérêts.
Passe rouge sur Radio Campus. Passe rouge sur Radio Campus, sur 6,6 FM. Alors là, Habib, est-ce qu'autour de cette table, il y a des copains, des dingos là, qui veulent réagir à ce qu'on entend?
Ouais, c'est plutôt gentil, j'ai trouvé. J'ai trouvé que c'était plutôt gentil en termes de lutte des classes. Elle est gentille, elle est d'accord, hein, cette dame, cette DRH.
Non, mais c'est sympa, ça donne envie d'aller faire ses courses chez qui on sait, là, en tout cas.
Oui, beaucoup moins maintenant. Je sais pas, quelqu'un d'autre, tranquillement. Ouais, Benj.
Bah, je trouve ça mérite quand même bien qu'on leur file autant de CICE tous les ans, quoi. cette pauvre
CICE,
entreprise.
Tu rappelles ce que c'est, s'il te plaît?
Bah, c'est notre argent à nous, hein, l'argent
public.
Arrête
de ramener ta science.
Alors, CICE, arrête de ramener ta science, un bon résumé de ce qui se passe. Et on enchaîne tout de suite, parce qu'on n'a pas le temps de beaucoup plus en parler. Oui, je sais, mais c'est une émission extrêmement touffue, camarade. Et nous sommes là sur un part de marché, un sujet entier tourné au marché de FIV. C'est ça, Benjamin? Tu peux nous en dire un peu plus avant qu'on lance?
Tourner au marché de collier, plus précisément. On va voir le dimanche, on récolte de la parole brute. Voilà, je vous laisse écouter un petit peu.
C'est parti.
On vous avait rencontré au marché de collier juste après l'élection d'Emmanuel Macron. On revient vous voir 4 mois plus tard.
Baisse des APL, fin des contrats aidés, hausse de la CSG, cadeaux fiscaux aux plus riches et attaque contre les droits des salariés.
Vous étiez prévenu, vous l'avez élu en ayant l'air convaincu, et maintenant vous en pensez quoi?
Si on me dit que les jets privés ne payent pas d'impôts, que les lagos d'or ne payent pas d'impôts, que les villas à Saint-Barth ne payent pas d'impôts, je suis absolument révolté. Qu'on me dise il faut retirer 5 euros d'APL, je suis absolument révolté. Mais qui va tenir cette force, cette puissance de feu là, qui dit stopper les machines, mon poteau? Comment je peux accepter qu'on me dise les jets privés ne payent pas d'impôts? Les résidences ne payent pas d'impôts, l'or ne paye pas d'impôts, alors que moi je paye des impôts, je retire de la bouffe à mes enfants.
Bon, j'ai pas très envie de m'exprimer.
C'est pour Radio Campus, on fait une émission sur le marché, on vient voir un peu ce que les gens pensent du président et de sa politique.
Je ne sais pas où il va, on ne voit pas vraiment venir, mais ce qui vient, ça n'a pas l'air terrible. Il fait Robin des Bois, mais à l'envers.
C'est le Robin des Rois.
Quand il est capable de supprimer l'accessibilité handicapée dans les immeubles, par exemple, sous couvert d'économie, c'est quand même gravissime. Il y a plein de petites mesures comme ça qui passent et qui sont graves, je trouve. Parce que le but du jeu, c'est pas de faire des sous, c'est que tout le monde vive ensemble.
4 mois finalement, qu'est-ce que
vous voyez pas tout ce qu'on a à payer? Je sais pas si vous vous rendez compte, des retraités, ça fait quand même beaucoup, hein. Ouais. Un petit peu trop dur même, hein. Alors Macron, faut plus m'en parler, hein.
Non, c'est plus votre tasse de thé, là, on dirait, hein.
Non, plus du tout.
Mais vous avez pu payer la taxe d'habitation.
Ah bon?
Il paraît.
Oui, il paraît, ça.
Il paraît. L'année prochaine, il paraît.
Moi, je crois ce que je vois maintenant. Parce que tout ce qu'on m'a promis, puis que je n'ai pas eu, eh ben, quand on a travaillé toute une vie, pour après, quand on est en train de végéter, parce que moi j'appelle ça végéter. Alors, plus de vacances, plus rien du tout. quand je travaillais, je ne pouvais pas aller en vacances plus de 15 jours. Parce que c'est embêtant, les infirmières de nuit, on n'avait pas. Mais quand je suis en retraite, je ne peux plus en vacances parce que j'ai plus les moyens. C'est bien. Je suis tellement écœuré que maintenant, quand rien que d'entendre sa voix, je ferme le poste. Ça vous dire l'amour que je lui porte. Hein.
Ah, votre sentiment a changé, hein. Vous étiez quand même un peu plus favorable, je me souviens, cet été.
Oui, 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 oui. Oh, mais
pas au printemps.
Tout à fait changé, hein. Parce que je dis la saloperie, il va tout nous bouffer. L'amour sentiment maintenant. Au pays des promesses, on y meurt de faim.
Est-ce que votre mari vous attend encore dans la voiture comme la fois dernière?
Il est là.
Ah, il est là. Ah, Jean-Marie. Jean-Marie, votre prénom, hein. On s'en souvient. Venez répondre à quelques-unes de nos questions, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de la politique de Macron concernant les retraités?
Mal foutu, mal fait. Parce que les retraites, bon, elles sont même pas augmentées que les autres, ils sont augmentés.
Non, ça fait 4 ans.
Parce que eux les mecs-là, ils sont bien payés. Tandis que nous, les moins payés. Mal payés. Et on paye encore des impôts. Des impôts, mais formidables, des impôts. Hein. 1800 euros d'impôts, je paye. Alors, pas normal. Quand on est retraité, on ne doit plus payer.
Il est fait partie du Parti communiste. Vous avez du temps de louer Léon de Létocard, tout ça, à Avion. J'étais ami avec Léon de Létocard.
Et alors vous disiez, faut un nouveau mai 68. Hein.
Oui, il faut un nouveau mai 68 pour dégager toute cette saloperie qu'il y a. Hein, bon, c'est la politique des riches et tout.
Mais pour qu'il y ait un mai 68, il faut...
Il faut que tout le monde y sorte ensemble. Et alors les jeunes, il faut qu'ils bougent aussi. Hein.
C'est qui tout le monde pour vous alors? Qui devrait se rassembler?
Toute la France, aussi bien que les chauffeurs, les ouvriers du bâtiment, tout le monde. Tout le monde, même parce que bon, pour les jeunes, il n'y a pas de boulot. Hein, c'est pas normal, quoi, hein, de voir un tableau comme ça. Alors on fait tout pour les riches, rien pour les pauvres. C'est ça qui est dégueulasse, quoi.
Mais les gens viennent de voter, ils viennent d'élire un nouveau président.
Les gens, ils savaient, non? Ils n'ont qu'à pas aller voter, ils n'ont qu'à voter blanc. Hein. Et puis même, je comprends pas qu'on a mis une pourriture pareille.
Il l'avait annoncé, Macron, pourtant, dans la campagne.
Bah ouais, il l'avançait. Ouais, les gens, s'ils veulent aller voter, ils vont voter. Moi, j'ai pas voté pour lui, c'est tout. Je vote pas pour les capitalistes, non? Quoi, je suis ouvrier. Faut arrêter ce système, là. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est l'Europe comme ça, bien quoi? Qu'est-ce que c'est, cette merde? Tout y remonte, ils voient pas qu'on a remonté le gasoil, quoi. Tout que les gens qui travaillent avec, quoi. Les loyers, tout y remonte. Il vient pas faire ses commissions, il sait pas qu'est-ce que c'est. Nous, on est retraité, j'ai 1200 balles, bon. Par mois, 40 ans de cotisation, 44 ans de cotisation, 2 ans d'armée. Je crois que c'est normal, ça. C'est même pas la moitié qu'est-ce que je gagnais avant. Et puis, on n'a jamais d'augmentation, rien du tout, les retraités. Alors, eux, ils roulent là, comment? Ils vont à des yachts et des avions personnels et tout. Et toi, t'as même pas quoi de mettre de l'essence ou bien qu'on pourrait travailler, ça va pas, non? Il faut changer tout ça. Et quoi, c'est vrai? Ils parlent que de Macron, qu'est-ce que c'est de ça? J'ai vu qu'il vient des grandes écoles, qu'est-ce qu'il a foutu dans sa vie? Lui, rien, il comprend rien de la vie.
Il travaille à la Banque Rothschild quand même.
Bah, la Banque Rothschild, ouais, bien sûr, pour les riches. Hein. Il connaît, il vient faire le marché, lui. Il voit pas que tous les marchandises qui remontent. Il voit rien. Hein, mais bon, niveau les retraités, les retraités, tout à l'heure, ils font les poubelles, il faut arrêter quand même. Hein. Bon, franchement. T'as déjà vu les retraités dans notre temps qui allaient faire les poubelles? Ah non, maintenant on les voit faire les poubelles pour quoi que ce soit. C'est ça la France, mon vieux chapeau. Hein. Hein. Tout ce qu'on a acquis, ils sont en train de tout détruire. C'est vrai? Bon, j'ai plus grand chose à dire.
Merci beaucoup.
Bonne
merci.
Journée.
Bonne journée, monsieur.
Non, mais. Faut bouger, les gars.
Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.
Et si c'était ça la France qui se construit avec Macron? Ceux qui réussissent, qui écrasent ceux qui ne sont rien. À la gare comme au marché.
Là, vous avez bien compris à qui profite cette politique. Pas à vous.
La lutte des classes n'est donc pas morte. Et cette loi de travail alors, vous pensez qu'elle vous profite ou qu'elle profite qu'aux capitalistes?
Ça permet aux gens qui ont de l'argent d'investir. Et finalement, pour que les gens travaillent, tout ça, ça c'est bien. C'est de bloquer tout, de...
Mais faciliter les licenciements, par exemple, ça permet de donner du travail aux gens?
Non,
c'est une bonne chose, mais il ne faut pas que l'équilibre soit déséquilibré. Ouais. C'est une excellente chose. Mais il ne faut pas que l'équilibre social soit déséquilibré. Les droits des salariés, il ne faut pas, au nom de la crise économique, empiéter sur le droit d'un salarié.
Mais c'est ce qui est fait, là. Les ordonnances Macron, c'est exactement ça. C'est empiéter,
oui et non,
baisser
oui
les droits.
Et non, oui non, et non.
Pas parce que des fois, vous prenez des prud'hommes. Des fois, vous avez un artisan qui a un capital de 7000 euros. Il a un salarié, il a travaillé 2 ans chez lui. On a vu des jugements où le salarié il a obtenu 30, 50, 100 000 euros.
Pour des licenciements abusifs.
Attendez, non, monsieur. Non. Abusif, c'est vous qui le dites. C'est le tribunal qui a décidé et qui a eu une lecture qui était abusive. C'est ça le gros problème pendant des années, c'est que nos politiques n'ont jamais trouvé l'équilibre. Soit vous avez la gauche qui vient, elle tape sur les patrons, vous avez la droite qui vient, elle tape sur les salariés, et donc pendant des années, ils ont explosé ce pacte qui est nécessaire pour l'économie française.
On est dans un pays qui est le 5e pays le plus riche du monde, il y a 9 millions de pauvres.
Vous le pensez ?
Non, c'est la réalité des chiffres. Est-ce que c'est un équilibre qui vous convient, ça ?
Ah non, c'est pas du tout normal. Mais cette pauvreté, ça dépend de quelle manière vous la regardez, monsieur. Vous la voyez. Et cette richesse, ça dépend de quelle manière vous la voyez. Est-ce que c'est une richesse qui est réellement ici implantée en France?
Ah oui, oui.
Ou c'est juste des avantages et des chiffres que vous voyez? Est-ce que l'argent de cette économie, elle est ici, elle est investie dans l'économie française?
Oui, il y a énormément
ou elle est ailleurs?
Oui, oui, il y a énormément de milliardaires, de millionnaires dans ce pays, okay, en
monsieur,
effet.
Moi, je suis ouvert à tous les Français qui deviennent millionnaires et milliardaires.
Le travail.
Oh putain, c'est une escroquerie, c'est fini, c'est pas Google ou Facebook ou je sais pas, machin qui vont faire la loi chez moi. Je suis en France. Il y a des lois de travail qui sont là, qui se sont battues pour les toucher, les gars. Ils se sont battus contre le patronat. Là, je crois que je suis trop bon.
Mais monsieur, quand même, comment voulez-vous que les entreprises embauchent si elles peuvent pas licencier, quoi?
Alors, c'est ça. Dis-moi quand il pleut, t'es mouillé. T'as des questions cons comme ça souvent, toi?
Bah,
il y a des droits du travail, ils ont été actés, ils ont été votés, ils ont été arrachés au patronat. Ça marche là?
Mais, et un contrat gagnant-gagnant, c'est pas jouable?
Les couilles, ouais. Là, c'est bon aussi comme réponse là? Ça te va?
La loi travail, c'est zéro. Ça, c'est fait pas encore pour les riches. Quoi? Le joueur que, bon, tu vas être comme un Kleenex. Hein, et le patron, il va faire qu'est-ce qu'il veut de toi, quoi. Ça va pas, il va tout dehors quand même. Bah, comme un Kleenex, c'est tout, quoi.
Mais alors, ils nous disent quand même, laissez-nous finalement licencier plus facilement, comme ça on pourra embaucher.
C'est de la vraie connerie, ça. C'est de la vraie connerie, c'est fait pour les patrons, c'est tout. Alors, les gros patrons, hein, pourquoi qu'on leur prend pas aux gros patrons? Alors, on fait des cadeaux aux riches, et puis aux pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont nous massacrer encore un coup, là.
Vous n'acceptez pas cette politique qui va contre vos intérêts.
30 ans de libéralisation du travail pour créer de l'emploi et un chômage de masse qui enfle. Ça ne marche pas, mais on en remet une bonne couche. Aucun doute, les patrons sont au pouvoir.
Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez? Que pouvez-vous faire?
Actuellement, ceux qui font grève, c'est tous ceux qui ne sont pas concernés par la loi travail, c'est-à-dire les fonctionnaires, la SNCF, tout ça, ils ne sont pas concernés par la loi travail. Puisque c'est des gens qui sont qui ont leur emploi à vie. Alors, qu'ils arrêtent de faire grève, en plus, c'est pas suivi. Hein. C'est pas suivi. Hein.
Vous êtes d'accord avec Macron quand il les traite de fainéants, alors?
Ah non. Mais là, actuellement, je vais vous dire que tous ceux qui font grève aujourd'hui, monsieur, c'est ceux qui sont pas concernés par la loi travail. Hein, okay.
Alors, il faudrait quoi? Qu'est-ce qui est souhaitable dans la lutte?
Parce que là, actuellement, je vais vous dire, c'est... Moi, j'ai travaillé dans l'administration, j'ai fait grève. Même 3 semaines, 1 mois. Alors, vous voyez que j'ai perdu sur mon salaire et tout ça. Mais le problème, c'est que maintenant, les grèves qu'il y a, c'est tout par catégorie. C'est-à-dire, les gens, ils défendent leur bibliothèque et ils s'en foutent de ceux qui sont à côté.
Il faut que les gens se rassemblent.
Bah oui, il faut que les gens, comme on a fait... Mais enfin, ça n'existera plus, 68, parce que les gens sont très individualistes maintenant.
C'est des conneries, toutes ces manifestations. Il suffit, faites une manifestation fin juin, vous allez voir, en juillet, elle n'est plus là. Faites une manifestation quand il pleut, les gens se battent. J'y étais, on était trempés, on restait. Et les gens, et Dieu sait que je suis maquillée, le noir coulait et tout. On y restait, mais s'en foutent. Et en vacances, ils croient que ça reprend en septembre. Alors en fait, c'est des moutons de panurge, et quand ça s'arrête, ça s'énerve. Il faudrait que tout le monde arrête de bosser, même nous, sur le marché, tous. Nous, les nounous, si on ne garde plus les bébés, c'est une horreur.
Donc pour vous, la solution pour qu'il y ait plus de justice sociale, c'est la lutte par l'arrêt du travail.
Oui, il faudrait que tout le monde arrête de bosser.
Vous avez des doutes sur la forme de la lutte à mener, même si vous êtes convaincu qu'il faut vous défendre. C'est par l'unité des luttes et par la grève que vous voyez qu'on peut gagner.
Il était beau, jeune, dynamique et ambitieux. Il allait bien représenter la France. Il allait sacrifier les retraités, mais c'était bon pour les jeunes.
Aujourd'hui, sur le marché de Collier, les choses ont bel et bien changé. Rappelez-vous la dernière fois où vous aviez l'air convaincu, il avait tout pour plaire. Allez, on vous réécoute, c'était il y a 4 mois.
Première des choses, il est bien jeune et présente bien l'image de la France.
Non, ce que je voulais, c'est qu'il y ait du renouveau, qu'il y ait du jeune.
Mais je pense qu'il y a des droits qui freinent l'embauche et que c'est important de peut-être ne pas avoir tous les droits, justement.
Quand j'ai voté la dernière fois, la première fois que j'étais votée, j'ai voté Le Pen. Et la deuxième fois, je me suis repris, j'ai dit, ah ben non, je vais voter Macron. Hein. C'est la première fois que ça m'arrive.
Job sur On passe au rouge, Radio Campus. Laurent, tu voulais intervenir de rechef, tout de suite.
Moi, première remarque, je trouve que ça manque un peu de feignant dans ce reportage. Vous avez pas dû très bien chercher, c'est pas ce qu'on nous a dit à la télé.
Bah. Pourtant, ouais. On s'est donné du mal, hein, mais on a trouvé que des gens qui bossent, qui se mobilisent. Qui font... ouais. Que des gens qui bossent. Que du travailleur. Ouais, Sabrina, toi.
Moi, je trouve que c'est une belle invitation pour Monsieur Macron à venir au marché. Hein. Ça, c'est évident.
Il y a Joseph, là, qui est chaud également.
Bah, ce qu'on entend, les appels à la grève et tout ça au marché de Collier, quand tu me prendras ça au marché du Vieux-Lille, c'est que ça commencera à devenir bon, je pense.
C'était Joe le Français.
On a cru à entendre Habib à un moment donné. Non, t'avais l'air bien vénère. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, Habib au milieu.
C'était
là.
Toi ou pas, là? Vas-y, ouais, dis la vérité.
Ouais, c'était moi. Moi, je commence à en avoir marre de ce monde d'enculé. D'individualistes, des gens qui sont là.
Vous êtes bien sur Skyrock, qui font Radio Libre. C'est sans concession. C'est sans concession avec le travail.
On attend tous les autres, mais pas toi-même. Bon, c'est un peu facile. Hein.
Enfin, en même temps, on végète. Hein, donc.
On y va. On passe à Jean-Jacques, qui est là. Alors, Jean-Jacques, c'est sa première fois. Il est très stressé. Il enchaîne les euphytoses, là, depuis tout à l'heure. on est sur YouTube Rouge.
Financé par Sanofi, merci.
Financé par Sanofi. Mais il est dedans, marque. Jean-Jacques. Pas de marque. Sinon, on doit toutes les citer. Vas-y, Jean-Jacques, à toi.
Bon, alors, moi, je vous propose de découvrir quelques YouTubeurs, comme on dit, des gars ou des filles qui s'expriment politiquement grâce à des chaînes sur la plateforme YouTube. C'est souvent très bien vu, parfois marrant. Mais surtout, ils répondent en partie à la question qui nous intéresse aussi. Quelle forme vont prendre dans le futur les médias de gauche? Vu que la presse s'écroule et vu que pour l'instant, on en parlera peut-être, il n'y a pas de médias audiovisuels clairement à gauche. Alors je crois que celui qui est le plus en pointe, c'est Osons Causer, petite équipe qui bosse beaucoup ses dossiers. Voilà un petit extrait de ce qu'ils disent sur la loi travail.
Alors c'est la deuxième grande réforme du droit du travail qu'on a en 2 ans. Et la grande justification de ces réformes, c'est que le droit du travail serait trop protecteur, il serait trop strict en France et que ça empêcherait les patrons d'embaucher. Du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est assouplir le droit du travail pour libérer les énergies, redonner confiance aux entrepreneurs et enfin permettre de faire baisser le chômage de masse. Alors nous, on s'est dit, ce serait bien comme histoire, mais ce qu'il faut voir, c'est est-ce que c'est vrai. Donc ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est allé regarder les études en économie et on est allé voir si effectivement baisser le droit du travail, ça allait permettre aussi de baisser le chômage. Et là, ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, en 30 ans de recherche, on n'a aucune preuve que diminuer le droit du travail, ça diminue aussi le chômage. Alors, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est une interview sur France Inter. Alors, c'était une interview de Philippe Aguillon, qui est un des conseillers économiques principaux de Macron, et c'est une des têtes pensantes derrière les lois travail. Et Philippe Aguillon, le journaliste, lui demande, alors, est-ce qu'on a au moins une preuve que flexibiliser le droit du travail, ça va faire baisser le chômage? Et alors là, on a vu un truc très bizarre, on a vu Philippe Aguillon qui s'est mis à bafouiller, il était complètement en PLS, il était incapable de citer la moindre étude.
Mais ça, vous nous le dites au doigt mouillé, ou c'est prouvé scientifiquement?
Je pense qu'il y a eu des études je peux pas vous dire voilà telle étude, mais enfin je sais que c'est prouvé, c'est établi.
Et alors là, j'ai fait de la recherche, ne pas savoir citer une seule étude sur ton domaine, c'est hallucinant. C'est comme si t'étais boulanger et que t'étais incapable de donner le nom de tes pains à tes clients. C'est juste pas possible. Bon bah du coup on allait faire le travail à sa place et on aura épluché 30 ans de recherche sur les effets de la flexibilisation du droit du travail sur le chômage et l'emploi. Et ce qu'on a découvert, c'est que des études, il y en a eu vraiment dans tous les pays du monde, dans des situations de croissance, de récession, vraiment dans toutes les situations. Et les études, au début, dans les années 90, il y en avait certaines qui trouvaient un effet, d'autres qui trouvaient pas d'effet. Du coup, c'était très controversé. Mais depuis quelques années, en fait, la situation est devenue très claire. Toutes les synthèses disent la même chose. Le premier point, c'est que on n'a aucune preuve que flexibiliser le droit du travail, ça fait baisser le chômage. Ça, c'est clair, tout le monde est d'accord. Et le deuxième point, c'est que flexibiliser le droit du travail, peut-être que ça créerait des emplois. Alors, ça paraît bizarre. Comment c'est possible que ça puisse créer des emplois si ça fait pas baisser le chômage? En fait, la raison est toute simple. Les études qui montrent des créations d'emplois, c'est très majoritairement dans des petits secteurs. Donc, en fait, on peut créer des emplois dans un secteur en en prenant d'un autre. Et au final, ça ne fait pas baisser le chômage. Et ces études qui trouvent des effets comme ça, en plus, c'est des effets généralement très faibles. Donc, si on prend l'ensemble des études, et notamment les plus récentes, ce que nous dit la science économique, c'est très clair. Flexibiliser le droit du travail, on n'a pas de preuve que ça fait baisser le chômage. Et dire le contraire, bah, tout simplement, c'est faux.
Le fil d'actu reprend les codes du JT classique, mais les détourne plus ou moins subtilement. Là, il s'intéresse au statut du petit patron dans cette loi travail qui risque fort d'être le dindon XXL de la farce.
Et le pire du pire, donc le plafonnement des indemnités prud'homales et la suppression du plancher de 6 mois minimum de salaire d'indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse si tu avais plus de 2 ans d'ancienneté. Alors ça, c'est assez incroyable. Bon, bah moi, 6 mois de salaire pour un licenciement non mérité, je trouvais ça plutôt correct. Je sais pas, le temps de se retourner, quoi. Et surtout, hein, qui va attaquer au prud'homme, d'accord, assigné au prud'homme, attendre 3 ans un jugement pour gratter entre 1 et 3 mois de salaire? Eh ben, personne sauf les cons, mon copain, je préfère te le dire. Et déjà, l'avocat, il va te prendre entre 500 et 1000 palos plus 15% de ce que tu vas gratter. Alors, autant dire que tu vas rien faire du tout et qu'il faudrait être con. Et d'autant plus que tu peux plus le faire tout seul, ou du moins, c'est beaucoup plus compliqué depuis la loi de 2016. Alors, pour ce qui est du plafond de ce que tu peux gagner au maximum au prud'homme pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors maintenant, c'est 20 mois. Alors 20 mois de salaire, ah, même si ça fait 30 ans que t'es là, du coup tu sais rien foutre d'autre, hein, et que t'as une famille nombreuse à nourrir, eh, ils en ont rien à secouer, je te le dis, ils en ont rien à secouer. Alors c'est assez dramatique parce qu'en fait l'air de rien, c'est plus ou moins l'abolition du CDI, c'est une forme de création de prime de précarité pour la rupture du CDI. Et quand on voit la teneur des débats, c'est absolument affligeant, tu sais, les patrons ils sont là à se plaindre des prud'hommes, des indemnités prud'homales, mais comme si ça tombait de la lune. Eh, mais les juges ils sont pas là à juger avec une faucille et un marteau, hein. C'est des mecs qu'on bac plus suite, hein. Et les juges face à toi au prud'homme, c'est pas Robespierre qui crie guillotinons les riches, bordel de merde. Je sais pas si vous avez déjà vu un juge, hein, mais ça transpire pas l'essence prolétaire, mon pote, hein. Eh, ça pète pas autour d'un barbac en buvant de la 8-6, bordel de merde. Ils sont là juste pour appliquer la loi, d'accord. Et s'ils te condamnent, c'est que t'as commis une faute. Et pareil pour le montant des indemnités, ok, ça tombe pas du ciel ou de la roue de l'infortune, poteau. Ils étaient là pour évaluer un préjudice financier et moral, point. Point barre, c'était le rôle des juges. Mais c'est terminé, maintenant les juges, ils vont se transformer en guichet. Eh, le pauvre, tu t'assois sur la bouteille, t'essaies de pas abîmer l'étiquette, elle doit servir pour d'autres.
Alors si vous connaissez, vous avez bien vu que c'était pas du tout le fil d'actu, c'était Bonjour Tristesse qui parlait des indemnités au prud'homme. Le fil d'actu, c'est maintenant qu'on l'écoute.
On voit mal en quoi ces ordonnances vont profiter aux petits entrepreneurs. Prenons l'exemple du plafonnement des indemnités prud'homales. En 2014, seulement un tiers des arrêtés prud'homaux concernaient des entreprises de moins de 11 salariés, alors même que ces dernières représentent plus de 90% du total des entreprises françaises. Les indemnités qu'elles ont dû verser étaient par ailleurs en moyenne 3 fois moins élevées que pour les autres. Ce ne sont donc pas ces entreprises-là, pourtant essentielles à l'économie, qui profiteront d'une telle mesure. Plus généralement, on peut d'ailleurs s'étonner de l'idée que le gouvernement se fait et véhicule des petits entrepreneurs. Soyons honnêtes, il ne semble pas abusif aujourd'hui de dire que les procédures d'embauche peuvent constituer pour certains un casse-tête administratif.
Par Jupiter, est-ce que les gens peuvent être désagréables? Que voulez-vous?
Le laissez-passer à 38.
Vous avez le formulaire bleu?
Le formulaire bleu? Non.
Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38?
Et où trouverais-je le formulaire bleu?
Guichet 1.
Mais j'en viens.
Mais pour leur simplifier la tâche, pour les soutenir dans leur démarche, rien n'est fait.
Il y a des choses à faire en matière de code du travail.
Christophe Rameau, économiste atterré.
Il faut simplifier. Mais vous savez pourquoi il a épaissi au cours des 30 dernières années? C'est parce qu'on a introduit plein de mesures libérales de dérogation. Et donc, la loi El Khomri a ajouté des dizaines de pages au code du travail, et la loi Travail XXL qu'on nous prépare, elle va en rajouter des dizaines, si ce n'est plus de 100 pages.
Les seules simplifications mises en place concernent le licenciement, voire le licenciement abusif, comme si tout petit entrepreneur ne voyait dans son salarié que le coût qu'il lui représenterait si jamais il lui venait l'idée de le licencier sans respect des procédures.
Maintenant, voici le bon sens, alias Antoine Léaumont, qui lui fait ça, sa petite chaîne tout seul, et qui, du coup, est même devenu directeur de la campagne numérique de la France Insoumise.
Autre problème donc contenu dans ces ordonnances, c'est la transformation du compte de pénibilité en compte professionnel de prévention. Alors désormais, un départ en retraite anticipé sur la base de la pénibilité au travail sera conditionné à l'existence chez le travailleur d'une maladie professionnelle. Et puis il y a quatre critères qui sont exclus de la pénibilité. Le mot pénibilité disparaît parce que Emmanuel Macron trouve que le mot pénibilité, ça donne une impression, vous comprenez, que le travail serait quelque chose de difficile. Et c'est vrai que dans certains cas que lui ne connaît pas, le travail est effectivement pénible. Et donc, de ce compte pénibilité, qui donc perd son nom, sont retirés quatre critères de pénibilité. Le contact avec des substances chimiques n'est plus un critère de pénibilité. Le port de charges lourdes n'est plus un critère de pénibilité. La position pénible n'est plus un critère de pénibilité. Celui-là, c'est celui où on se rend le plus compte qu'ils se foutent de notre gueule, puisque une position pénible ne fait plus partie des critères de pénibilité. Moi, je trouve que le foutage de gueule atteint son maximum avec celui-ci. Et enfin, les vibrations mécaniques sont retirées des critères de pénibilité. Donc, vous voyez qu'on a retiré tout un tas de choses qui font partie de la pénibilité réelle du travail, mais qui sont retirées par le gouvernement des critères de pénibilité, qui donc ne sont plus des critères de pénibilité, mais changent de nom et deviennent des choses qui arrivent au travail, mais qui n'existent plus en tant que critères de pénibilité.
Alors vous avez pu entendre quelques extraits de quelques youtubeurs, extraits partiels par définition, axés sur la loi travail. Je ne peux que vous recommander d'aller directement les découvrir pour entendre ce qu'ils disent. Puis il y en a plein d'autres, le stagirite, Demos Kratos, je suis pas content, Acropolis. On en reparlera si mes camarades ici présents choisissent pas de mettre fin à mon CDI de chantier.
C'était quoi cette petite musique là? Ils ont tous la même musique dans les blogs ou quoi? C'est quoi ce bordel?
Ouais, en fait, c'est moi qui les crée tous, si tu veux.
Ah.
C'était ta musique.
Sur Fruity Loops. Laurent, tout de suite.
Ouais,
Laurent.
Moi, je voudrais pousser un cri d'alarme face à l'ubérisation des présentateurs télé. Hein. Je me demande pourquoi ces youtubeurs, ils n'ont pas le salaire de Pujadas, parce que pour produire leurs émissions, ils sont visiblement plus compétents.
Mais il leur manque un recul journalistique. Enfin, c'est logique. Habib, là. Là, t'étais chaud, là. Bien sûr que t'étais chaud.
Moi, je pense que ce qui vient du peuple, ça pue, hein, pour les élites. Donc bon, donc ça reste que des grognements instinctifs, grégaires. Et donc moi je pense que leur place est dans le poulailler, hein.
Il a appris son catéchisme.
Oui, voilà. Moi je travaille chez Gérard, donc j'ai un peu été initié chez les maîtres à penser.
T'inquiète pas, que ça va pas durer très longtemps, Habib, à mon avis, s'il écoute l'émission. Hein.
La réforme du code du travail, c'est pas qu'il y ait deux ou trois failles. Se résigner sans livrer bataille, qu'ils disent que l'on n'est pas taille, que les gens acceptent qu'on les assaille. On vaut mieux que ça. Qu'on laisse gouverner le patronat. On vaut mieux que ça. Qu'on cesse de gouverner par vos lois. On vaut mieux que ça. Quelques irréductibles gaulois face à l'envahisseur bourgeois qui voudrait piétiner nos droits. On vaut mieux que ça. La loi est le Khomri. On vaut mieux. Et toutes ces conneries. On vaut mieux. Marre de ces moqueries en haut lieu nous. On vaut mieux que ça. Que toutes leurs tromperies. On vaut mieux. Ça paye pas le bon prix. On vaut mieux. On a bien compris qu'on vaut mieux, ouais. On vaut mieux que ça. La réduction des temps de repos. Les salaires peuvent faire de gros bons en arrière qu'en euros. La pyramide de faux. D'ajouter le fractionnement des 11 heures de la journée. Repos et euros à journée, non. On vaut mieux que ça. Les heures supplémentaires peuvent être 5 fois moins majorées. Les apprentis mineurs peuvent trimer 10 heures par jour. Les sommes partielles à 24 heures, la semaine à 35 heures. Et d'autres qui t'a à cœur que cette loi vise à chourer. C'est au service des exploiteurs, des groupes les plus dévastateurs. À qui cette loi fait des faveurs, que l'État a couré. Le plafonnement des indemnités, on peut pas se gourer. C'est pas pour aider le salarié car on vaut mieux que ça. Les plans de sauvegarde de l'emploi consistent en navirer. Les salariés sans quoi la barque est censée chavirer. Pour prétendu motif économique au mieux de ça. Black ils pourront se faire sans raison, mais on vaut mieux que ça. Passer de 10 à 12 heures de travail par jour, on vaut mieux. L'expansion du dispositif forfait jour, on vaut mieux. Bosser gratos pour leurs beaux yeux par amour, on vaut mieux. Oui, patron Jacques, on vaut mieux, ouais, on vaut mieux que ça. Et puis c'est vrai qu'aller s'épuiser, on vaut mieux que ça. S'enliser dans l'entreprise et se mépriser, on vaut mieux que ça. S'échiner, et se ruiner, et trimer pour déprimer, et puis déprimer, on vaut mieux que ça. S'abîmer pour pas un rond pour des patrons, on vaut mieux que ça. Sous les recommandations d'Emmanuel Macron,
il vaut mieux pas.
Chez Fayon, on vaut mieux que ça. Et la pompe, c'est ça quand on t'en fait d'affront, on vaut mieux que ça. Faire taf, non, on vaut mieux que ça. On vaut mieux que se tuer au boulot, que se maintenir la tête sous l'eau, que s'anesthésier le petit boulot. Pour l'heure, on vaut mieux que ça. On vaut mieux que bosser au McDo, que mettre en rayon des packs d'eau. On est loin de nos rêves d'ado. C'est vrai qu'on vaut mieux que ça. Perdre sa vie à la gagner, passer son temps à se manier. On est tous dans le même panier. Et on vaut mieux que ça. Notre pouvoir pourront pallier, tant ils vont voir qu'on est panier si on cesse les accompagner. Car on vaut mieux que ça. Grève générale, ad vitam aeternam. Bâti par les réclames, ta petite parée, c'est le drame. Pour la bourgeoisie, car Tricard qui fabriquait sa cam, qui a trimé pour ses produits et sa gamme. Sans salariat, aïe aïe aïe, ça va pas, ah bah ça tombe bien. Combien vaut-on à ce stade-là? On vaut mieux que leur dire qu'on vaut mieux que ça. Ils ont là appris qu'on se moque de savoir combien on vaut, car on n'a pas de prix. Pas de prix. On vaut mieux que ça.
Ouais,
on vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça.
On passe au rouge sur 106,6 en modulation de fréquence. Vous pouvez retrouver également cette émission sur campuslille.com. Joseph, c'est un instant solennel, c'est à toi. Tu as mis ta plus belle marinière.
Working Class Hero, héros populaires d'hier et d'aujourd'hui, du réel ou de l'imaginaire.
Wow.
Ces héros, on peut les trouver parfois là où on ne les attend pas. Alors, le héros de la lutte des classes dont on parle ce soir vous est familier, par sa dégaine nonchalante, sa tignasse en bataille qui témoigne déjà d'un esprit réfractaire à l'ordre établi, sa touche inimitable avec son éternel col roulé, ses blue jeans et ses espadrilles, dévoilant un insoumis au mode commercial vestimentaire du moment. Vous l'avez deviné, nous parlons ici de Gaston Lagaffe. Si on ne peut pas comparer les albums de ses aventures à des brûlots marxistes, quiconque en a un exemplaire dans sa bibliothèque pourra aisément y trouver un condensé de lutte des classes dans l'univers impitoyable du monde de bureau.
Gaston, y a le téléphone qui sonne, y a jamais personne, y répond, non.
Vous le savez peut-être, lors d'une de ses premières apparitions en 1957 dans les pages du journal Spirou, Gaston est un héros sans emploi, un chômeur qui se tape l'incruste dans la rédaction du journal. C'était un running gag dans les marges de l'hebdomadaire qui n'était pas fait pour durer et que le dessinateur Franquin avait imaginé pour se détendre de la pression du dessin de Spirou, la série phare du journal. Gaston, la précarité, y connaît. C'est en s'imposant par la force des choses, de haute lutte en quelque sorte, que Gaston a gagné sa place dans la vie active. Chargé ensuite du courrier des lecteurs, il le laisse s'accumuler, le planque, le détruit. Il trouve mille et une combines pour buller et fait tourner en bourrique les petits chefs soucieux de se faire bien voir de la hiérarchie. Entre explosions multiples et maladresses à gogo, le gaffeur le plus célèbre de la BD est surtout un empêcheur de travailler en rond. Comme les ludites, ces briseurs de machines anglais du début du 19e siècle, en lutte contre les nouvelles technologies industrielles qui piquaient leur travail et servaient à augmenter les cadences. Sabotage, un mot qui vient d'ailleurs, nous dit la légende, de ces tisserands anglais qui jetaient leurs sabots dans le métier à tisser. Subversif, le Gaston ? Un peu à la manière de Chaplin, dans les temps modernes, il est le grain de sable qui vient stopper tout l'engrenage, gripper la mécanique bien huilée de l'organisation du travail. Autre anecdote, Gaston Lagaffe est victime d'un licenciement en décembre 1960, juste avant Noël, pour avoir ramené dans les locaux de la rédaction une vache gagnée à une tombola. C'est au prix de milliers de lettres des jeunes lecteurs, une campagne de pétition en somme, qu'il est finalement réintégré quelques semaines plus tard dans les pages de Spirou, grâce à ce bel élan de solidarité. Comme on dit à la CGT, quand on touche à un de nos camarades, on s'attaque à tout le syndicat, n'est-ce pas ? Autre manière de lutter contre les cadences infernales, Gaston pratique la perruque, cet art subtil du détournement à des fins personnelles, de l'outil et du temps de travail. Il exploite mille et une combines pour réaliser en douce les inventions les plus délirantes, de la machine à faire les cocottes en papier à celle qui écarte les joues pour mastiquer. Il cuisine au bureau, il dissimule ses siestes et ses parties de bataille navale. Gaston, c'est un guide pratique de la réduction du temps de travail. Alors certes, vous allez me dire, Gaston, c'est pas l'action collective et organisée, c'est pas le porte-parole monté sur un tonneau qui appelle ses collègues à la grève avec son mégaphone. C'est avant tout des stratégies individuelles pour en faire le moins possible. C'est un héros plutôt libertaire, mais qui s'attaque frontalement au symbole de l'ordre établi et de l'autorité. Le flic et ses parcs-maîtres, l'homme d'affaires avec son cigare de Messmaker et ses fameux contrats jamais signés, sauf une fois par Gaston lui-même pour le brevet d'une de ses inventions. Antiproductiviste, mais populaire, poète écolo, mais roulant dans une vieille bagnole polluante, Gaston exprime la contradiction entre nos aspirations à vivre un monde meilleur et la réalité quotidienne de nos vies aliénées par le travail. Il fait partie de ceux qui aident à prendre conscience du poids de nos chaînes. Et en ça, il répond à sa manière à l'interpellation du vieux Lafargue. On écoute Paul Lafargue.
Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie traîne à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis deux siècles, torturent la triste humanité. Cette folie, c'est l'amour du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. au lieu de réagir contre cette aberration mentale, les prêtres, les économistes, les moralistes ont sacro-sanctifié le travail.
Bon, merci Paul Lafargue. En gros, pour résumer, pour gagner le droit à la paresse, votez Gaston Lagaffe, ok ?
Enfin !
Merci Joseph. Excellent, on voit que tu sais lire aux enfants, tu sais poser un cadre. Est-ce que... Non mais vraiment, moi j'ai...
Ça c'est pas des trucs à dire aux enfants ça.
Oui mais on peut le faire, on peut tout dire d'ailleurs. On peut tout dire dans On passe au rouge. Des réactions sur ce héros de la classe ouvrière ? Plus Fantasio, plus Gaston ici.
Personne ne l'a lu ou quoi ?
Ah, Laurent.
Bah,
Laurent.
En fait, tu parles de sieste à un enfant, il a fui. Hein. Mais en fait, je me dis que du coup, Macron, là, il confond la vie réelle avec un Gaston Lagaffe. C'est là qu'il a trouvé son feignant.
Son feignant, sa passion triste. Oui, c'est ça. Quelqu'un ? Oui ? Non, mais c'est ça. Quelqu'un ? Personne ? Bon, bah, très bien. Mais on enchaîne. Hein, mon Seb, on y va ? Sabrina, Marie, vous avez été dans... à Saint-Sauveur, au lieu, donc comme je disais au début, hein, un peu de l'art contemporain, etc. Enfin, le truc un peu, voilà. Mais également de montage un peu sauvage où on voit de jeunes gens, plus ou moins jeunes, albanais, guinéens. C'est les guinéens que vous avez rencontrés. Je te laisse finir pour pas tout dire comme ça.
Alors, bonjour à tous, chers auditeurs. Donc, avec Sabrina, Laurent et moi-même, nous avons décidé d'aller à la rencontre, donc, comme l'a dit Laurent, des personnes que l'on nomme demandeurs d'asile, migrants, étrangers. Donc, nous avons interrogé 4 jeunes hommes guinéens vivant derrière le parc, le campement, de la gare Saint-Sauveur.
Et donc, pour commencer, nous allons laisser la place à Mohamed, dit Momo, 20 ans, vivant dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale à Tourcoing. Et il a eu la gentillesse de nous raconter son histoire.
Au moment où tu pars de ta ville, tu es tout seul ?
Non. Pour quitter au Mali, quand même, jusqu'à Burkina, j'étais en Suède. Mais pour quitter au Burkina jusqu'en Italie, j'étais un ami, mais il est décédé en Italie. À Libye.
En Libye ?
Au plus jeune, ouais.
À cause de...
Bah, pour essayer de traverser. Donc,
au moment où...
Ouais.
Et là-bas, qu'est-ce que t'as vu là-bas ? Qu'est-ce qui s'est passé en Libye ?
C'est pas facile. La Libye, c'est pas facile. Parce qu'il n'aime pas des blagues. Quoi. Mm-hmm. Tu vois ? Il n'aime pas des blagues. Donc, on est à Libye comme du commerçant. Comme par exemple, si toi tu voulais... Comme on le commerce, quoi. Comme si tu voulais vendre un pro... vendu de sauge. Mm-hmm. Donc nous on est là-bas, quand on arrive de Libye, si voisin là nous vit ici, il peut appeler des polices, police pour venir nous prendre, et police il va donner de l'argent à lui, celui qu'il appelle le police, donc pour aller nous emmerder dans nos prisons, pour nous frapper tous les jours, pour donner le téléphone, pour qu'on perde des parents.
Tu as été emprisonné ?
Ouais. J'étais à la prison des Zawiya, 7 km de Tripoli.
D'accord.
On était 3 500 dans la prison.
Et t'es resté combien de temps là-bas,
deux
en prison
mois.
Deux mois.
Ouais.
Comment t'as réussi à partir de la Libye ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah, depuis que j'étais là-bas, il m'a battu plein de fois, donc j'ai plein de dangers. Je reste dans la prison là-bas, je suis à 2 mois. Et un jour, parce qu'il travaille la nuit pour construire des maisons, il est venu pour. Chaque fois, il vient de prison pour demander, pour prendre. Pour aller travailler dans l'esclavage, pour aller travailler de maison. Donc il est venu pour me demander qui est maçonnerie, celui qui peut construire la maison.
Qui c'est qui peut construire ?
Ouais, okay. Bah, parce que j'étais aux prisons, donc je n'ai pas de possibilité pour sortir. Moi, je n'ai pas de parents, il y a des moyens, donc voilà. Maintenant, je le dis à moi, on est plein. Donc depuis quand moi, je sorti aux prisons, je me fuis, quoi.
Grâce à Mohamed, on a pu rencontrer des amis à lui qui sont installés sur le campement de la gare Saint-Sauveur et ils vont nous raconter leur quotidien. Voilà Mokhtar et Suleiman.
Ça fait des mois qu'on est là. On souffre. Il n'y a pas d'aide. On a tapé toutes les portes. Ça ne va pas. Donc on est là. Mmh. On est là avec des associations qui nous assistent des fois. Mmh. Des fois aussi, on voit il y a des coins ici comme Ozanam, Aïda, des fois pendant la journée pour aller manger, tout ça. Mais on est là quand même, ça va pas. Il y a la fraîcheur. On souffre beaucoup. Il y a d'autres qui sont malades. Vous voyez, d'autres, ils ont des problèmes.
Il y a des médecins qui passent
Ouais, il y a des médecins qui passent des fois. Il y avait une semaine, MSL était là avec des bus.
Ouais.
Ouais, ils étaient là, il y a d'autres qui sont partis. D'autres ne savaient pas aussi. Mais la vie d'ici, ça ne va pas quand même. On est là, on souffre beaucoup.
Il n'y a pas assez d'associations qui passent et il n'y a pas de solution.
Si, il y a des associations qui viennent quand même au secours. Mais pour le problème de logement, tout ça, et puis problème de scolarisation, on en a besoin.
Tu as quel âge,
Mokhtar ? Moi, j'ai 19 ans. J'ai 19 ans. On a fait tout. Donc, à Saint-Sauveur, ça ne va pas. Même hier, on avait fait une manif là. Ça a été mal passé entre nous avec les policiers.
Qu'est-ce qui s'est passé avec les policiers?
En fait, il y avait un ami qu'on avait tabassé là-bas. D'autres, on l'avait pris. Mais on ne sait plus la suite, comment ça s'est passé. Parce qu'on n'a pas d'informations, vous voyez. Donc, c'est comme ça se passe ici.
Est-ce que quelqu'un t'a expliqué comment fonctionnait le système français quand tu es arrivé?
Non, il n'y a personne qui m'a expliqué.
Et ici, tu vois les associations?
Bien cher. Ouais. Oui, il y a les associations, beaucoup d'associations qui passent chez nous ici. Des fois, elles nous aident à propos des nourritures, l'eau, tout. Quand même, ils aident, il y a certains gens, ils aident pour aller à l'école, au school. Quand même, on remercie les associations qui passent.
Et puis, parmi ce magnifique décor de tente Quechua, de personnes qui passent, de poussettes bucoliques, voilà, il y avait aussi Youssef, qui lui aussi, au campement de la gare Saint-Sauveur, souhaitait nous faire part de cette attente avec un petit peu de difficulté parce qu'il avait du mal à parler. Mais on écoute Youssef.
C'est que l'État français doit comprendre, nous avons des droits et nous combattrons légalement pour avoir ces droits.
Bien sûr.
Vous comprenez? Ici, les gens sont mal nourris, mal logés. Est-ce que tu comprends?
Oui.
Vous voyez?
Oui.
Nous dormons dehors, sous les intempéries. Moi, je pense que ce n'est pas une vie digne que nous sommes en train de mener là.
Et qu'est-ce que les gens, les habitants de ce quartier pourraient faire pour vous aider, concrètement?
Concrètement, bon, notre premier souci, c'est de trouver un hébergement.
C'est ce que disent tous les...
Ouais, voilà, c'est ça, c'est la première des choses, l'hébergement. Après, se nourrir, bien s'habiller, se soigner, partir à l'école, travailler, vous comprenez.
À travers ce reportage, donc, on a pu comprendre, donc, grâce à Mokhtar, Youssef, Mohamed et Suleiman, qui ont bien gentiment voulu se confier à nous sur leur statut de demandeur d'asile en France. Donc là, ce qu'on a voulu montrer à travers ce reportage, donc, c'est la précarité, l'incertitude et les revendications qu'ils ont bien sûr eux aussi. Aujourd'hui, donc, les habitants du campement font l'objet de stress, d'un stress permanent, puisqu'ils ne savent pas et ne connaissent pas quand ils seront expulsés. Quant à Mohamed, il a été appelé vendredi dernier à 9h du matin pour partir à Dunkerque à 13h30. On ne sait pas où en est sa situation aujourd'hui. Donc, du coup, aujourd'hui, ce qu'on a compris aussi, c'est l'existence d'un soutien moral. Heureusement qu'il existe entre les habitants du campement et les réponses humaines par les associations lilloises.
En effet, ces hommes et ces femmes du campement sont avant tout des personnes et non seulement un simple problème d'ordre politique ou économique.
Merci Marie, Sabrina. Lydie, tu voulais intervenir tout de suite?
Je voulais savoir qu'au premier abord, qu'est-ce que l'on voit visuellement de ce campement?
Alors visuellement, avant d'entrer dans le campement, on voit des familles en fait, comme on verrait... des familles lilloises qui se baladent et qui n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe derrière le mur. Donc il y a vraiment un décalage entre le quartier de la gare Saint-Sauveur et puis ce qui s'y passe à l'intérieur en fait.
Oui, et puis on entend quand même au loin ce sound system qui a été donné par une association, et qui je trouve est une bonne idée, parce qu'en fait ça fait un espace de fête, et on l'entend un peu en fond sonore dans les extraits, où les gens vont danser, boire le thé, et moi je trouvais, en fait au début je m'étais dit ok, un sound system, mais finalement les gars, je crois que ça leur permet un peu de tenir, parce que là on l'entend, ils ont pas les besoins primaires qui sont satisfaits.
Ouais, ouais. Ils sont combien là sur le à la gare Saint-Sauveur en ce moment là, les réfugiés? À peu près, hein?
À peu près une cinquantaine.
Ouais.
Une cinquantaine. Donc dans des tentes.
Oui, ils étaient dans des tentes. Ils vivaient normalement, en fait. C'est ça qui est assez perturbant, c'est qu'en fait, ils sont là, ils vivent normalement, ils lisent, ils chantent, ils dansent, mais et surtout, ce qui est très perturbant, c'est le décalage avec l'attente. Voilà, en fait, ils attendent, tout simplement.
En souffrant. Dans un stress permanent.
Et dans les âges, là, parce qu'on parle de mineurs, alors vous avez vu des gamins de quel âge pour les plus jeunes?
Et en fait, c'est ça qui est assez perturbant, en fait. C'est qu'on nous a dit aussi qu'il y avait des mineurs dont la police ne voulait pas les reconnaître en tant que mineurs, et donc du coup, ils n'avaient pas de droits, en fait. Puisque s'ils ne sont pas reconnus mineurs, ils n'ont pas les droits que la France est censée leur attribuer.
Mais vous, est-ce que vous avez vu des gamins?
On a vu des enfants. On a vu effectivement des enfants jouer, mais c'était pas la majorité des personnes.
Ouais, ouais, absolument. On va passer tout de suite au sujet suivant, même si c'est très.
C'est le dernier. Long.
C'est le dernier, ben oui. C'est Laurent et Lydie, et c'est Dans le rouge.
Vous êtes dans le rouge.
Bonjour Laurent.
Bonjour Lydie. Bonjour à tous.
Plutôt que de suivre les CAC 40, Dow Jones et autres Nasdaq, ta chronique va s'intéresser chaque mois à la seule bourse qui concerne nos auditeurs, la leur.
C'est en effet la seule bourse qui mérite une chronique dans notre émission.
Et ce mois-ci, tu vas nous parler du porte-monnaie des consommateurs d'énergie qui est dans le rouge.
Oui, en effet, tu t'en souviens peut-être, il y a 12 ans, François Rousseli, le patron d'EDF-GDF, faisait passer des vessies pour des lanternes à l'ensemble des spectateurs du JT de France 2.
Jamais cette entreprise ne sera privatisée. Elle ne sera jamais privatisée parce que quand on a la responsabilité de gérer 58 réacteurs nucléaires qui produisent 80% de l'électricité d'un pays, cela fait peser sur vous, chef d'entreprise, sur nous tous, une responsabilité qui n'est pas simplement une responsabilité d'ordre privé et d'actionnaire privé.
Notre président populiste de l'époque lui emboîtait rapidement le pas.
On ne viendra pas à la privatisation. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net.
Pas si clair, puisque l'entreprise EDF-GDF a été saucissonnée puis privatisée en 2007, quelques mois après cet enregistrement. Et depuis, tous les dirigeants se succédant aux rênes de ces deux entreprises, comme de leurs concurrents, se révèlent particulièrement incompétents pour maintenir le coût de l'énergie aussi bas qu'il l'était à l'époque du monopole de services publics. Depuis, le coût de l'électricité a augmenté de 30 à 50% alors que le coût du gaz a littéralement explosé, entre 50 et 75% selon le type de contrat. Et ce n'est pas l'arrivée d'acteurs proposant une énergie dérégulée qui a pu baisser la facture. Les tarifs de ces nouveaux venus, tels que Direct Energy, pour ne citer que cette entreprise, ont eux augmenté de 40% en moyenne.
Et rappelons que pendant cette même période, le SMIC, lui, n'a progressé que de 15%.
On en a presque oublié l'époque où plusieurs années pouvaient passer sans que la facture d'énergie n'augmente. C'était d'ailleurs le cas entre 1983 et 2005, où on observe qu'une faible augmentation de 3% sur une période longue de 20 ans. Au cours de la même période, le coût du gaz, lui, avait même tendance à baisser, moins 3, moins 4, moins 5% pour le plus grand plaisir des usagers. Et ça, c'était bon pour le porte-monnaie de monsieur et madame tout le monde.
Oui, certes, c'était le bon temps. Mais l'augmentation du coût de l'énergie, il n'est pas forcément dû à la volonté des fournisseurs d'augmenter leurs profits. Il est peut-être tout simplement dû à la conjoncture. De nouvelles taxes ont fait leur apparition au cours des années 2000, telles que la CSPE, la CTA. Et ce sont justement elles qui augmentent fortement le coût de l'électricité.
Mais l'apparition de ces nouvelles contributions sont justement une conséquence directe de la privatisation. Tant qu'EDF avait une vocation de service public, c'était cette entreprise qui assurait la péréquation tarifaire, les dispositions sociales, les retraites des personnels des industries électriques et gazières. C'était cette entreprise qui assurait l'investissement dans les secteurs innovants comme par exemple le photovoltaïque ou l'éolien.
À partir du moment où le secteur de l'énergie devient une arène dans laquelle chaque participant recherche uniquement un profit financier, chacune des contributions spécifiques qui faisaient d'EDF-GDF une entreprise à vocation de service public s'est transformée en taxe imposée aux consommateurs. Qui dit privatisation dit taxe.
Et ce n'est pas forcément moins cher pour les usagers.
Ce n'est ni moins cher ni plus juste, car avec ces nouvelles règles de concurrence, ce sont les gros consommateurs qui sont mis à l'honneur au détriment des plus modestes. Cela se traduit par une explosion des prix des petits abonnements. On parle des abonnements dits 3 kV ampères, destinés aux locataires de modestes logements, qui sont passés de 24 à 67 euros, alors que le coût des abonnements pour les compteurs de 18 kV ampères, destinés à des propriétaires de grandes résidences, ayant besoin d'infrastructures électriques pour chauffer leur piscine, a diminué, lui, de 36%. Du côté de GDF, devenu GDF Suez, puis Engie, l'abonnement au tarif de base est passé de 25 à 85 euros. Il a plus que triplé, tandis que le tarif B2L, destiné aux gros consommateurs, a augmenté, certes, mais seulement de 23%.
Si le petit consommateur paie moins que le gros, cela n'encourage pas aux pratiques écologiques.
C'est l'effet Ron Poulenc. L'art de communiquer à coup de gros spots écolo plutôt que d'encourager réellement à l'économie d'énergie par des tarifs incitatifs. Sur ce point, EDF-GDF était plus compétente à l'époque où elle était un véritable service public. Durant les deux décennies précédant la privatisation, le coût des petits abonnements avait baissé de 36%. Mais ça, c'était avant que l'entreprise ne cherche avant tout à satisfaire ses actionnaires.
Mais justement, dans les actionnaires d'EDF et Engie, l'État occupe encore une grande place et pourrait, s'il y avait une réelle volonté politique, utiliser son pouvoir de décision pour orienter ses entreprises vers une logique plus écologique et sociale.
Il faudrait pour cela que la volonté politique n'aille pas dans l'autre sens. Engie, anciennement Gaz de France, est sous le feu de l'actualité puisque notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, vient encore de céder ce 2 septembre 1 milliard d'actions détenues par l'État au capital. Cette cession s'ajoute à celle de 1,5 milliard d'euros réalisée en juillet dernier. En 3 mois, l'État s'est donc séparé de 8,6% de ce géant de l'énergie et ne détient plus que 24% des actions d'Engie. Et tout ça pourquoi ? Une partie de la somme dégagée servira à financer un fonds d'aide à l'innovation. Dans la bouche du ministre de l'économie, il faut comprendre un fonds d'aide aux start-up qui s'adressera principalement à des grosses et moyennes entreprises en quête de modernisation.
En d'autres termes, on réduit le pouvoir d'intervention de l'État pour financer des entreprises dites innovantes qui seront ensuite achetées par les GAFA et ça ne rapportera rien à l'intérêt collectif.
Et quoi qu'il en soit, tant que les règles du jeu du secteur de l'énergie tendront vers la concurrence exacerbée et la rentabilité à tout prix, la santé financière des petits usagers comme l'encouragement des pratiques écologiques passeront à la trappe.
Une logique qui pourrait prendre fin par la création d'un pôle public de l'énergie.
C'est en effet une des pistes qui permettrait de substituer l'intérêt collectif à la concurrence économique. Ce pôle public serait fondé sur un objectif central, concrétiser le droit à l'énergie pour tous dans le cadre d'une politique respectueuse de l'environnement. Il pourrait mettre fin à la concurrence actuelle entre les secteurs de l'énergie et créer au contraire des conditions de la mise en commun de leur potentiel pour en faire un instrument de gestion de services publics. Enfin, ce pôle impliquerait une gestion publique, les entreprises qui le composeraient seraient gérées démocratiquement avec de réels pouvoirs pour les salariés, les usagers et aussi les élus.
Ce qui éviterait chaque année de dilapider sous forme de millions de dividendes les richesses reversées aux actionnaires de ces grands groupes qui sont justement produites par ces salariés.
Et moi, ça me rappelle quelque chose, cette proposition. Non, pas vous, les camarades ?
Non, Joseph.
Pardon. Pas de marque.
Benjamin, tu voulais rapidement.
Je pensais que c'était la crise pour tout le monde, mais au final, on voit bien que toutes les bourses ne baissent pas. Il y en a qui explosent et c'est nous qui payons.
Merci, Benjamin. Lydie ?
Oui, je voulais dire qu'on pointait ici les fausses promesses du marché qui fait miroiter une baisse durable des prix de l'énergie et qui finalement s'avère une vaste fumisterie.
Vaste fumisterie, et c'est sur ces mots incroyablement dynamiques et positifs que nous couperons cette matinale de Radio Campus que vous avez bien raison d'écouter. On passe au rouge, c'est terminé. On passe au rouge, c'est donc terminé sur le 106,6 FM. On se retrouve le mois prochain, l'heure même jour. Et l'émission est disponible 8 semaines sur Campus Lille. .com en podcast.
Salut tout le monde.
Salut.
Allez, à plus.
On dit tous salut. Laurent, t'as pas entendu dire salut.
Salut les dingues.
Reste poli.
Salut.
Oui.
Je vote pas pour les capitalistes, hein. Moi, je suis ouvrier.